Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama avec en 2018 eh bien, le retour des trois membres de l'équipe. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Et aujourd'hui, eh bien, certains films qui sont dans les salles depuis le 10 janvier et d'autres qui étaient déjà dans les salles. Marine, de quoi tu vas nous parler ?
Mauvaise pioche pour moi aujourd'hui puisque je vais vous parler du très attendu Downsizing avec Matt Damon de Alexander Payne. Et je vais également vous parler d'un film argentin, El Presidente de Santiago Mitre.
Et puis toi, Manu, t'as fait aussi une mauvaise pioche. Hein, ça.
Notamment pour le film d'horreur du mois ou de la semaine, Insidious, la dernière clé. Et puis je vous parlerai de Burnout.
Et puis quant à moi, eh bien, je vous parlerai de deux films, Vers la lumière de Naomi Kawase, la japonaise habituée de Cannes, et elle était d'ailleurs en compétition cette année là-bas. Et puis Si tu voyais son cœur, ça c'est un premier film de Joan Chemla, une franco-argentine. Et puis eh bien, révisez vos classiques, j'ai envie de dire, à toute la filmographie de Ridley Scott, puisque nous allons jouer à un blind test spécial Ridley Scott. Ce sera en milieu d'émission, mais on débute avec un film qui n'a pas si bien fonctionné aux États-Unis, Downsizing.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Grâce au Downsizing, terminez la pression.
Allez, Jurland, vos 100 000 dollars se convertissent en 12 millions de dollars.
Ok, on le fait.
Voilà, dans un futur proche, une technologie révolutionnaire, comme vous l'avez compris, permet de réduire les humains à une taille de 12 cm. Alors l'enjeu est de taille, si je puis dire, puisqu'il s'agit de sauver l'humanité en développant des colonies de mini-humains qui consommeraient, de par leur petite taille, beaucoup moins et qui produiraient également moins de déchets. Mais Paul Safronek, interprété par Matt Damon, et sa femme ont d'autres motivations qui les poussent à accepter de se faire réduire. En devenant petit, eh bien, on obtient également l'accès à une vie oisive de surconsommation. Imaginez si vous mesurez 12 cm, il vous suffit de boire 1 cm cube de champagne pour être saoul et de manger une quantité infime de caviar pour être rassasié. C'est donc bien l'appât de la surconsommation à moindre coût qui attire tous ces candidats au rétrécissement, et en cela, le film de Alexander Payne, à qui l'on doit le très bon Sideways, est plutôt une critique de notre société réussie.
Le monde est plein de choses à voir, c'est sûr. Tu sais, je te connais pas, Paul, mais je t'aime bien, je t'aime beaucoup, et je vais te donner un petit conseil. Sors très vite de cet écœurant petit appartement de merde et ouvre grand tes yeux. Sois pas si américain. Tu es un gars gentil, Paul, mais tu es un gars un petit peu pathétique. Hier soir, tu dansais, tu riais, mais dedans, tu pleurais.
Mais t'es qui pour me parler comme ça ?
Je suis Dushan Malkovich, je suis ton voisin. Les voisins sont amis, les amis disent la vérité aux amis. Ok, peut-être quelquefois je suis un peu trou du cul, mais le monde a besoin de trou du cul, autrement comment la merde sortirait ?
À Saul, hein, en anglais.
Voilà, c'était Christopher Waltz qu'on entendait, qui joue comme d'habitude un foufou avec un accent un petit peu non identifié. Donc lorsque Paul Safranek est abandonné par sa femme au moment d'être rétréci, il se retrouve seul et sans but dans la communauté de Leatherland, et le film prend alors un tournant tout autre, et soyons clairs, il se perd. Plutôt que de jouer sur les ressorts comiques du fait d'être tout petit, Downsizing part dans des tergiversations économiques, et soyons clairs, on a quand même déjà vu sujet plus drôle pour une comédie. Paul Safranek se rend compte qu'il n'y a pas de société idéale et que même dans ce monde de Lilliputien supposément idyllique, il y aura toujours une catégorie de la population qui se fera exploiter. On l'aura compris, le sens du film est de démontrer que l'homme est un loup pour l'homme et que le rêve américain est une machine à broyer, mais le film ne sait plus sur quoi appuyer pour faire passer son message. Paul rencontre un magouilleur, donc joué par Christopher Waltz qu'on entendait tout à l'heure, qui trouve moyen de faire encore plus fortune en apportant des produits de luxe, et il devient également ami avec une dissidente vietnamienne qui va lui ouvrir les yeux sur les limites de leur monde idéal. Le problème du film, c'est qu'il n'est pas, sans mauvais jeu de mots, une grande comédie. Il n'est pas très drôle. Ensuite, l'écriture part dans tous les sens. Passer une première partie très explicative et très crédible sur le processus de la réduction, le film s'enlise sans savoir retomber sur ses pattes. On aurait aimé une exploration dystopique de ce futur façon Black Mirror. Il n'en est rien. Downsizing bascule vers une sorte de critique de l'économie et de l'écologie parfois douteuse, et qui semble brusquement se contrefoutre de tenir debout. De nombreuses incohérences scénaristiques sont à déplorer, ainsi que de nombreuses longueurs. Matt Damon est, comme d'habitude, je trouve totalement inexistant. Hein. Ce garçon est peut-être fort sympathique, mais moi je comprends toujours pas pourquoi il a percé dans le cinéma. Et puis surtout, le personnage de la vietnamienne est extrêmement raciste. Ils lui ont mis un accent censé être très drôle, mais qui est en fait très gênant. Et voilà, ça fait partie un petit peu de toutes les incohérences et de toutes ces petites choses qui vont pas très bien dans le film et qui en font, au bout du compte, un film qui n'est pas très sympathique, j'ai trouvé.
Voilà. Alors, en tout cas, pas forcément une comédie. Et puis, on a remarqué hein, que la presse était divisée, finalement. Il n'a pas fonctionné aux États-Unis. Et la presse française, en tout cas, est divisée sur l'intérêt d'aller voir Downsizing avec Matt Damon. On refera un blind test, tu verras, Marine. Il mérite sa place. Il mérite sa place. Est-ce que Insidious, quatrième opus, méritait sa place dans les salles? On va avoir les réponses avec Manu.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Alors après un premier opus excellent, hein, un deuxième qu'on va dire honorable, un troisième médiocre, la franchise initiée par James Wan descend encore d'un palier avec ce pitoyable Insidious, la dernière clé, l'une des plus mauvaises productions Blumhouse, capable du meilleur avec Get Out notamment, comme du pire avec Annabelle. Alors cette histoire un peu faisandée tourne autour de la médium Elise Reiner assistée de ses deux geeks chasseurs de fantômes, aussi drôles que séduisants, non je déconne parce qu'ils sont vraiment assez moches et assez pathétiques. Alors tout ce petit beau monde étant présent dans les films précédents, hein, pourquoi pas me direz-vous, l'idée de mettre en avant des personnages récurrents et secondaires n'est pas plus idiote qu'une autre, d'autant qu'Élise, brillante parapsychologue, va affronter ses propres démons en enquêtant sur un cas personnel. Par le plus grand des hasards, elle doit intervenir sur sa propre maison, dans sa propre maison et remonter dans son enfance pour découvrir une horrible vérité. Alors elle est amenée à revoir son frère qu'elle n'a pas revu depuis qu'elle s'est enfuie du domicile, dominée par un père tyrannique en proie à une spirale de violence incontrôlée. Elle fait aussi la connaissance de ses nièces, ce qui nous vaut quelques moments lacrymaux particulièrement gratinés. Après l'épouvante cubénie à la mode depuis quelques années, hein, voici l'horreur cucumapraline dégoulinant de bons sentiments enrobée d'une couche indigeste d'humour lourdingue.
Ici Élise.
J'ai besoin d'aide. Il se passe des choses dans ma maison et j'ai entendu dire que vous aviez de l'expérience là-dedans.
Pourriez-vous me dire où vous habitez ?
À Five Keys, au Nouveau-Mexique.
Cette maison, j'y ai grandi avec ma famille. Quand ces manifestations ont-elles commencé?
Peu de temps après l'emménagement.
J'ai déjà vu des fantômes ici, il y a très longtemps. Mais celui-ci est différent. Ces apparitions peuvent être terrifiantes.
Alors rien ne fonctionne hein, dans ce DTV qui ne dit pas son nom, hein, DTV direct to video hein, pour les auditeurs. L'interprétation est calamiteuse, les dialogues sont d'une rare indigence, hein, les jumpscares s'enchaînent sans aucune logique interne et pire, le rythme est d'une lenteur insoutenable. Alors Insidious, la dernière clé, est ce qu'on appelle un film de couloir, sombre parce qu'on n'y voit pas grand chose et vide car il n'y existe pas grand chose non plus. Alors tout au plus, peut-on sauver quelques apparitions de spectres crédibles grâce aux effets spéciaux numériques réussis. Mais c'est bien peu, le reste du temps, on suit la pauvre Élise qui passe d'un monde à l'autre pour combattre les ténèbres. Pour relancer l'action, une de ses nièces ayant les mêmes dispositions de parapsychologie vient à sa rescousse. Et entre deux tirades familiales nunuches et les blagues navrantes des deux Ghostbusters, les effets grand guignol peinent à convaincre. Le scénario très mal construit part dans tous les sens jusqu'à un épilogue convenu en forme de caméo. Alors, le précédent et premier long métrage du réalisateur Adam Robital, L'étrange cas de Deborah Logan, était nettement supérieur. Celui-là, d'ailleurs, n'étant pas sorti en salle, en dépit de son manque d'originalité. Alors, Leigh Whannell, le scénariste de tous les Insidious et des premiers sauts a torché un scénario si épouvantable que même la bonne tenue visuelle du film ne parvient jamais à sauver.
Donc il faut se réfugier sur le premier opus, hein, c'est ça?
Oui, garde le premier. Le premier est très réussi.
Sachant que Blumhouse Productions, ils essaient de faire des films les moins chers possibles pour se faire le plus d'argent possible.
Alors, c'est une production modeste hein, qui tourne toujours, on va dire, entre 2 et 6, 7 millions de dollars à peu près. Ça reste des productions quand même assez élevé pour des films d'horreur.
S'il y a des effets spéciaux, il faut quand même les payer. Donc,
voilà. Non, c'est pour ça que je crois que même le premier Insidious, c'était pas loin de 15-20 millions de dollars. Hein. Il me semble que c'était une production assez conçue pour un film d'horreur.
Beaucoup moins cher, hein, Si tu voyais son cœur, premier film de Johan Chemla dont on va parler dans Cinérama.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va garder ça.
Quel beau casting hein, quand on y pense. Le Mexicain Gael Garcia Bernal qui a joué dans No ou encore Desierto hein, dernièrement, le film du fiston d'Alfonso Cuarón. Il y a aussi l'Argentin Nahuel Pérez Biscayar qui est la star montante du cinéma français. Hein. On l'a vu dans 120 battements par minute et Au revoir là-haut. Et puis pour finir, Marine Wacht, la jeune actrice découverte chez Ozon. Et on peut même ajouter Karim Leclou. Non, étrange, hein, mais qu'on a pu voir dans Les Anarchistes et qui tient de formidables second rôles, pareil, hein, dans le cinéma français. Ce beau casting, qui représente plutôt la jeune génération du cinéma, se retrouve dans Si tu voyais son cœur, le premier film de Joan Chemla, une jeune réalisatrice franco-argentine qui s'est déjà distinguée dans le court-métrage. Elle adapte très librement le roman Mon ange de l'écrivain cubain Guillermo Rosales, dont l'histoire se déroule alors initialement en Floride. Ici, point de Floride, mais le sud de la France, Marseille, sans que la ville et toutefois son importance. Alors Si tu voyais son cœur commence comme un beau feu d'artifice. On y voit la fête, un mariage dans la communauté gitane. Deux amis s'y trouvent. Il y a le marié, Costel, interprété par le bouillonnant Nahuel Pérez Biscayar, et Daniel par le plus taiseux Gael Garcia Bernal. C'est de la sème d'une amitié qu'on devine profonde, mais le destin va les séparer. Finie la fête et bienvenue la tragédie, celle d'un homme qui va devoir quitter sa communauté et s'exiler, se réfugier, se morfondre ou mourir, comme il le dit lui-même dans un hôtel miteux, un de ces hôtels sociaux où l'on retrouve tout un tas d'éclopés, de personnes placées ici en attente d'une meilleure place.
Faut que tu payes, tu dois deux semaines.
Je veux travailler.
Ici, si ça paye pas, ça dégage.
Ouais, tu penses que je suis cinglé, hein ?
Oui.
Suivant Daniel, terrorisé par des images fugaces du passé, le film bascule dans une humeur sombre, mélancolique, où le personnage ne semble avoir qu'une tâche, hein, payer sa dette en faisant des mauvais coups, bien aidé par sa communauté gitane hein, qui lui refuse tout de même l'accès au campement. Il est vraiment ostracisé. La rédemption se fait attendre, d'autant que Daniel s'identifie à la violence qui l'entoure jusqu'au moment où il fait une rencontre, hein, une femme arrive dans sa vie et ça serait son seul salut.
Comment tu la trouves, la nouvelle acquisition ?
Comment tu t'appelles ?
Francine.
Vous vous aimez ?
Pas encore un grand amour, mais quelque chose qui commence.
Cette fille est malade. L'État me l'a confiée personnellement. Je suis responsable de tout ce qui pourrait lui arriver. Tout !
Alors, la bande-annonce ne ment pas vraiment hein, sur l'ambiance du film. Le scénario ne repose pas sur grand-chose. Hein, ça serait presque une histoire de rédemption à la Abel Ferrara, mais dans un style plus épuré, plus tendre et esthétique. La réalisatrice Joan Chemla prend son temps pour la description, mais sans s'apesantir sur les personnages qui n'existent que parce qu'ils gravitent autour de Daniel et pourraient le faire tomber encore davantage dans la violence. Alors qu'il s'agisse du garçon d'hôtel, ignoble et quasi tortionnaire avec les clients, du patron qui fait son beurre des aides sociales, ou d'un gitan qui veut lui faire payer plus qu'il ne le peut, Daniel a de quoi perdre pied. Là encore, la réalisatrice avance par petites touches, nous fait entrer dans la folie du personnage. Condamné à faire les choses alors sans envie et submergé par quelques images obsédantes qui ternissent un regard qu'on sait lumineux quand même, celui de Gael Garcia Bernal. Alors quand le personnage va bien, disons qu'il ne va pas si mal. Voilà. L'ensemble est sombre mais conserve une esthétique forte dans laquelle les terrains vagues, les grands espaces côtoient les chambres d'hôtel de cet hôtel miteux et mal éclairé. Alors bien sûr que la lumière vient du personnage de Marine Wacht, on peut le croire, mais ce symbolisme a beaucoup de peine à se frayer un chemin dans le récit plutôt sombre hein, de cette histoire qui s'apparente à celle d'un fantôme perdu dans son existence. On aurait aimé plus d'épaisseur, peut-être moins de non-dit, mais il subsiste tout de même quelques éclats de poésie ou d'effets narratifs qui parviennent à nous tirer de la simple vision d'un bel objet, bien interprété au demeurant hein, par des acteurs professionnels de premier plan, comme je vous l'ai dit, et de parfaits inconnus. Voilà, donc c'est à voir. Si tu voyais son cœur de Joan Chemla, il faut peut-être le prendre aussi comme un premier film. Un premier film bien fait, plutôt bien dirigé, mais avec quelques imperfections.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Digo lo que sé. Pues yo sé lo que haces.
Et on passe à El Presidente de Santiago Mitre. Au cœur d'un hôtel perdu dans les montagnes des Andes se rassemblent plusieurs chefs d'État d'Amérique latine dans le but de signer un accord très important. Au cours de ces quelques jours décisifs, le président argentin, interprété par Ricardo Darín, va devoir décider s'il s'allie aux États-Unis ou au Brésil dans une affaire d'accord pétrolier. Les enjeux sont de taille pour ce sommet au sommet, donc. D'autant qu'une menace inattendue surgit, le mari de la fille du président, faut suivre, menace de faire des révélations compromettantes et la fille en question, plutôt suicidaire sur les bords, s'invite à la réunion. Le président va tenter d'utiliser l'hypnose afin de soigner les névroses de sa fille, mais la séance va révéler des secrets que le politicien aurait préféré garder secrets. Attention Calvert, pour moi du moins, El Presidente était présenté à Cannes en sélection Un certain regard. Et oui, le point de vue du film est plutôt intéressant. Mais parvient-il à nous passionner pour autant? C'est moins sûr. Alors pourtant la presse a plutôt aimé, mais alors vraiment, avec moi ça n'a pas fonctionné. Disons que dans la deuxième partie du film, l'histoire prend un tournant fantastique qui, je pense, était trop ambitieux. Plutôt que de traiter ce scénario sur le ton du thriller politique, le réalisateur choisit la voie des sciences occultes et autant le dire, on n'y croit pas une seconde. Le réalisateur Santiago Mitre connaît son sujet, la politique et les puissants. Son père travaillait pour des organisations internationales. Il en parle plutôt bien, mais sans pour autant nous le rendre passionnant. L'ensemble reste très impénétrable pour qui ne s'y entend pas en sciences politiques. Et malgré une séquence avec Christian Slater qui est censée servir à vulgariser l'ensemble, on n'y comprend pas grand-chose. Le film est beau, sans jamais être prenant, et malgré une mise en scène plutôt efficace en forme de huis clos, eh bien, il peine à nous passionner.
Eh ben c'est un peu tout le contraire, enfin, peut-être hein, d'ailleurs, parce que c'est sans doute mitigé. De tout l'argent du monde, le dernier film de Ridley Scott, qui est en salle depuis 2017 et qui poursuit sa carrière dans les salles et qui va nous permettre de jouer un blind test.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Alors même s'il ne fait pas toujours l'unanimité avec son dernier Alien ou Prometheus, Ridley Scott est un réalisateur qui aura marqué près de 40 ans de l'histoire du cinéma. Rien que son nom aura donné envie d'aller voir sa dernière œuvre dans les salles. Alors pas aussi radical qu'un Soderbergh capable de naviguer tranquillement entre le blockbuster et le film aux visées artistiques, Ridley Scott montre tout de même une certaine aisance à mêler les deux univers. La preuve avec ce blind test qui est une manière finalement de revenir sur la carrière du Britannique, on commence, c'est extrêmement facile.
Vous vous souvenez de l'araignée qui vivait dans les buissons devant votre fenêtre ? Un corps orange, des pattes vertes. Vous l'avez regardé faire sa toile tout l'été. Et un jour, vous y avez trouvé un gros œuf. L'œuf a éclos.
L'œuf a éclos.
Et ?
Des centaines de bébés araignées sont apparus. Ils l'ont mangé.
Ce sont des implants. Ce ne sont pas vos souvenirs, ce sont ceux de quelqu'un d'autre. Ceux de la nièce de Tyrell.
Alors, bon, facile, Manu ?
C'était Blade Runner.
Blade Runner, film de 82, avec la voix française d'Harrison Ford, qu'on a évidemment entendu. Plus de 2 millions d'entrées, autant dire que c'était plutôt un beau succès pour le réalisateur. Deuxième extrait.
Ça suffit, les conneries, merde. Ces deux filles, elles avaient encore leur chance. Avaient leur chance. Et toi, tu leur as tout saboté.
Non.
Là, elles ont de gros ennuis. Écoute-moi, je te rendrai personnellement responsable d'au moins une partie de ce qui va leur tomber dessus. Je te trouve pas sympathique. Alors, ou tu te mets à table, tu me déballes tout ça, et j'ai une petite chance de faire quelque chose pour ces filles, ou je serai sur ton dos toute ta vie comme une mouche sur une merde. Et tu peux te dire que je vais te faire chier à mort, c'est compris ?
Oui, oui.
Et voilà, bon appétit. Oh là là. Et donc, Manu s'est trouvé.
C'était Thelma et Louise, un film de 91, il me semble.
Oui, deux points pour toi. Là, on entend la voix française d'Harvey Keitel, effectivement, et qui est en face de lui, la personne qui l'agace au plus haut point, c'est Brad Pitt. Oui.
Oui, oui.
Oui, oui, dans un de ses premiers rôles, voilà. Quand il avait des grosses joues encore.
Film qui a lancé sa carrière, un film qui mélange plusieurs genres, un buddy movie, road movie et western. Troisième extrait, encore du facile.
Apprends de moi. Je n'étais pas le meilleur parce que je tuais plus vite. J'étais le meilleur parce que la foule m'aimait. Gagne la foule, et tu gagneras ta liberté.
Je gagnerai la foule. Je lui donnerai quelque chose qu'elle n'a jamais vu.
Alors, l'Espagnol, nous irons à Rome ensemble.
Alors, facile aussi.
Eh bien, c'était Gladiator.
Je trouve que leur voix n'était pas très, très virile encore. Ils auraient dû faire un petit effort pour qu'elle soit un peu plus grave.
Gladiator, film de 2000 avec Russell Crowe, Joaquin Phoenix. Plus de presque 5 millions d'entrées en France. Donc, gros succès, à l'inverse de ce film-là, que par ailleurs, j'ai beaucoup apprécié.
Hé, l'avocat, vous savez pourquoi Jésus n'est pas né au Mexique ?
Non, pourquoi ?
pas de vierge et les rois mages seraient pas arrivés en vie. Une dernière chose. Prenez ceci en considération. Les décapitations et les mutilations, ça fait partie du jeu. C'est seulement pour prouver leur force. Aucune haine dans leur barbarie. Ils font ça sans la plus infime émotion. Essayez de deviner qui ils veulent vraiment tuer.
Aucune idée. Qui?
C'est vous, l'avocat. Vous.
Avec un peu d'humour, mais beaucoup, beaucoup de dialogue.
Ah oui.
mais un sacré casting, hein. Michael Fassbender, Penélope Cruz, Brad Pitt, Cameron Diaz et Javier Bardem.
Et donc c'était Cartel. Mm.
Premier scénario hein, de l'écrivain Cormac McCarthy, qui est plutôt un familier du cinéma, avec No Country for All Men, Le Merveilleux, et puis La Route, tout aussi impressionnant. Et seulement 343 000 entrées et quelques en France, autant dire que c'est un gros bide.
Il y avait eu une scène de sexe avec une voiture dedans, de la part de Cameron Diaz. Je pense que les gens n'ont pas compris ce film, en fait.
Elle fait l'amour, elle fait l'amour à une voiture, effectivement, une Ferrari. Hein. Et puis, Javier Bardem raconte la scène.
C'est pas une Peugeot, par contre.
Non.
Elle a bien choisi.
Et Javier Bardem raconte la scène, c'est son mari, et puis il explique que quand même, bon, il était assez... Enfin, ça l'a toujours marqué. Enfin,
jaloux de la voiture.
Presque jaloux, oui. Allez, on va terminer ce blind test spécial Ridley Scott avec un dernier extrait.
Il doit y avoir un moyen de le tuer, lequel? Comment peut-on faire?
Vous ne pouvez pas.
Je lui dis des conneries.
Vous n'avez pas encore compris à qui vous avez affaire? Un parfait organisme. Et sa perfection structurale n'a d'égal que son hostilité.
Tu l'admires, n'est-ce pas?
J'admire sa pureté. Un survivant qui n'est pas souillé par la conscience, le remords ou les illusions de la moralité.
Alien.
Extrait très intéressant parce que je trouve que ça développe aussi les thèmes, des thèmes qui sont présents aussi.
Qui sont présents dans le dernier, dans
Cartel, dans voilà. Enfin voilà. Sur la moralité, la responsabilité, ainsi de suite. C'est ainsi qu'on achève eh bien, ce blind test spécial Ridley Scott. Et nous allons passer maintenant à un film français, c'est Burnout.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Tu veux toujours aider ta pote?
Faut que tu livres ça. Si la cam disparaît, ou si tu te fais serrer, ta copine, il la crève.
Alors incontestablement, hein, Burnout tient plutôt bien la route et on reste bien accroché à son objectif principal, scotcher le spectateur sans jamais tergiverser, filer tout droit à l'image des escapades nocturnes du personnage principal en moto pour livrer la marchandise à destination. Alors après Captif, film d'horreur sur le trafic d'organes et Un homme idéal, un thriller introspectif pas très convaincant, Yann Gosselin s'essaie au polar immersif, adaptation d'un roman noir, Balancé dans les cordes de Jeremy Gaze. Le scénario n'a rien de transcendant en soi, hein, exploitant un thème vu et revu au cinéma, c'est-à-dire un homme simple qui est pris dans un engrenage pour rembourser une dette. Alors Tony, personnage solitaire, accro aux sensations fortes, hein, n'existe que pour sa passion, la moto. Son objectif est de devenir pilote de moto Superbike. Il se fait repérer par un coach pour devenir professionnel. Alors tout roule, hein, sans mauvais jeu de mots. Hein, jusqu'à...
T'en es quand même au 12e du jeu de mots. Hein. Enfin, bon.
Si, c'est vrai. Jusqu'à ce qu'il apprend que la mère de son fils trafique de la drogue au service de la pègre manouche. Alors suite à un vol, elle se retrouve à devoir 50 000 euros. Pour sortir son ex de la mouise, Tony offre ses services au truand. Il devient go faster la nuit. Le jour, il est pilote de circuit, sans compter son boulot à mi-temps de manœuvre. Alors, entraîné dans une spirale infernale, Tony perd pied et ne sait plus trop comment sortir de cette situation explosive. Pour tenir le coup, il est obligé de prendre des cachets. Le burn-out n'est pas loin.
T'as 2 heures, vas-y, bouge!
Je sais ce que je fais, ok? C'est pas ma vie, ça, bon.
C'est quoi ta vie?
Je crois qu'on s'est pas bien compris là. On a dit 2 mois, ce soir c'était la dernière, j'ai fini là.
Musique électronique plutôt entraînante.
De Gesa Fulstein, exactement. Ah oui.
Et c'est plutôt à la mode, hein, puisque le récent polar aussi qui s'appelait Tueur, hein, il y avait un peu le même type de musique.
Là c'est un peu plus.
C'est un peu plus rythmé.
Un peu plus rythmé et réussi.
Alors, l'originalité n'est pas vraiment au rendez-vous dans ce thriller efficace et ultra rythmé qui aurait pu être bien meilleur s'il ne cédait pas à la pire des facilités. Alors, tout le film semble conçu pour attirer le public des cités, avide de bessonneries genre Banlieue 13 ou de production style Fast and Furious. Le scénario ne s'embarrasse pas de subtilité et présente les blacks et maghrébins comme de braves gars, fait qu'on ne peut pas reprocher au réalisateur par les temps qui courent. Mais en revanche, les manouches sont décrits comme d'immondes ordures, des types absolument infects, à commencer par le chef, modèle de saloperie manipulateur et sadique. Alors, cette approche un peu manichéenne d'un contexte social crédible à la base dessert en partie un film qui a des relents de xénophobie envers une communauté déjà pas mal stigmatisée. Alors, passé ce point noir, le troisième long métrage de Ian Gosselin est addictif dès que la parole s'absente lorsque Tony s'embarque sur sa moto pour accomplir sa mission au cœur de la nuit. La mise en scène purement sensitive atteint des sommets en termes de découpage, de composition de l'image et de l'enchaînement rythmique évoquant le travail des meilleurs stylistes comme Michael Mann ou Nicolas Refn. Alors, le jeune cinéaste français est doué dès qu'il s'engage vers un formalisme à la fois hypnotique et tendu comme un tour de grand 8. Alors, on regrette d'autant plus la faiblesse des dialogues que l'on peine à imaginer dans le roman. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas l'impression de voir une adaptation d'un roman. On sent trop souvent la volonté de la part du cinéaste de caresser un public dans le sens du poil, tout en ayant l'ambition de sortir des sentiers battus. Alors, le résultat inégal reste une tentative quand même très réussie de polar français, où étrangement, les flics sont totalement absents physiquement. On entend souvent les sirènes, mais rien de plus. Alors, François Civil, aperçu dans Five, Made in France, mais aussi le film d'horreur Catacombs, est crédible en jeune homme introverti, nourri par une obsession pathologique. Face à lui, on retient aussi la prestation impressionnante dans un rôle pourtant écrit sans finesse, à la limite de l'archétype de Olivier Rabourdin, éternel second rôle vu récemment en Pourriture également dans Monet. Il excelle à jouer les ordures en gardant une voix suave et un visage assez impénétrable. Plutôt une réussite malgré
une petite réserve
concernant la
communauté gitane.
Il y a aussi Manon Azem dedans, qu'on avait découvert dans la série En passant pécho, qui tournait quand même autour de la drogue. Après, on l'a vu dans Gangsterdam, où elle était dealeuse avec Kev Adams. Là, à nouveau, elle a des problèmes avec les gitans parce qu'elle dit de la drogue. Je lui souhaite bon courage pour la suite dans le cinéma français.
Et elle joue pas très bien, en plus.
Eh ben, elle a vraiment tout pour plaire.
En tout cas, Burnout, c'est actuellement dans les salles.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on termine avec Vers la lumière de Naomi Kawase en compétition à Cannes après avoir patienté dans la section Un certain regard en 2015. La réalisatrice japonaise présentait Vers la lumière, donc un film qui a remporté sur la croisette le prix œcuménique et qui sort ce mois de janvier en salle. Le prix œcuménique n'apporte absolument rien. L'idée de ce film est venue à la réalisatrice après qu'elle ait assisté à des séances d'audio-description en fait réalisées pour Les Délices de Tokyo, son film précédent. L'audio-description permet aux non-voyants d'avoir des indications sur ce qui apparaît à l'image. Et en assistant à ce processus, eh bien, la cinéaste japonaise a eu la sensation, finalement, eh bien, de redécouvrir son œuvre. Elle en a profité pour en apprendre davantage sur le travail des audio-descripteurs, une tâche facilitée par sa qualité de documentariste et qui ressort pleinement dans son film de pure fiction. Dans Vers la lumière, on assiste donc, et c'est très intéressant, à des séances d'audio-description. L'héroïne Misako en a fait son travail. On la voit raconter ce qui est à l'image, donc à des spectateurs témoins qui lui font des retours. Alors, si tous sont plutôt polis et agréables avec elle, parce qu'on est quand même au Japon et que voilà, on ne hausse pas le ton, lors d'une séance, un non-voyant n'y va pas de main morte et critique sévèrement la qualité du travail de l'audio descriptiste. Il estime notamment qu'elle manque de nuances et est intrusive. Avec des guillemets. Alors cet homme, c'est Nakamori, un ancien photographe dont le travail est renommé et qui a pratiquement perdu la vue. Alors si au premier abord, ses remarques briment la jeune femme, elle va tenter de se corriger et une relation finalement va se nouer entre le mur photographe et la jeune audio-descriptrice. J'ai du mal à le dire, audio-descriptrice. On sent poindre une situation romanesque inévitable à laquelle le spectateur eh bien, va devoir adhérer. Sur le papier, ces deux personnages sont proches. Hein. L'un perd inexorablement la vue quand l'autre donne à voir. De même, en perdant l'accès à la lumière, le photographe perd ce qu'il a de plus cher au monde, hein, donc la photographie. Et d'une manière symbolique, l'audio-descriptrice doit aussi faire face à une disparition, celle de son père, il y a déjà quelques années. À mesure que le film avance, l'un va faire chemin vers l'acceptation de son handicap. Quand à la jeune femme, eh bien, elle a aussi un chemin à prendre qui pourra la réconcilier avec la vie. Tout est disparition et évanescence hein, dans cet univers brassé par la réalisatrice japonaise, qu'il s'agisse de l'art de la photographie chez Nakamori, qui tente jusqu'au dernier moment hein, de capter une infime partie de la lumière, ou de la mémoire de la mère de la jeune femme, une mémoire qui lui fait défaut à cette mère puisqu'elle attend sans cesse son mari disparu. Voilà. La réalisatrice est captivante quand elle nous laisse voir les séances d'audiodescription, livrant du même coup une réflexion sur les images et sur la cécité finalement des voyants. Elle l'est encore quand elle suit le photographe qui se heurte à la réalité de sa condition. Mais la relation entre les deux personnages est pourtant loin de convaincre. Et pour mener son récit, Naomi Kawase enferme ses personnages avec des plans serrés, des gros plans, voire des très très gros plans. Le son, quant à lui, est admirablement traité, au contraire de la musique signée Ibrahim Malouf, qui vraiment est trop répétitive. Donc voilà, c'est un bilan vraiment très contrasté de ce film Vers la lumière. Certains ont même parlé de film un peu mièvre et niais. C'est vrai que cette histoire d'amour paraît un peu mal balancée. Mais néanmoins, il y a quelque intérêt à aller voir le film de Naomi Kawase qui est en salle depuis le 10 janvier.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il va contrôler qui est qui, qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
On se retrouve la semaine prochaine. Et Marine, tu auras vu deux films.
Oui, moi je vais vous parler du rire de ma mère et d'un autre film qui s'appelle L'enfant de Goa.
Et moi je parlerai d'une reprise, le deuxième film de Stanley Kubrick, Le baiser du tueur, film noir de 1955.
Et moi peut-être que j'aurais vu Brillantissime, comédie française, et un film polonais pour contrebalancer un peu.